بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث مع الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وها نحن وصلنا إلى الحديث الخامس عشر. Donc nous continuons toujours l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, et à l'ensemble des musulmans et des musulmanes. Et nous sommes arrivés au hadith numéro 15. Donc commençons d'abord par la lecture du hadith. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه والحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. Donc d'après Abu Huraira رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne dise que du bien ou qu'il se taise. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier se montre généreux envers son voisin, et que celui qui croit en Allah et au jour dernier reçoive généreusement son invité. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde. فَأَوَّلًا نَرَى تَرْجَمَةَ رَوِي الْحَدِيثِ. Donc premièrement, nous allons voir une brève biographie du rapporteur du hadith. وَرَوِي الْحَدِيثِ هو أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة الدوس إحدى قبائل اليمن. Donc le rapporteur du hadith, comme vous l'avez entendu, c'est Abu Huraira رضي الله عنه. Il s'appelle عبد الرحمن بن صخر. Il fait partie de la tribu de Daws, qui est une des tribus du Yémen. وكان أبو هريرة رضي الله عنه في الجاهلية يسمى عبد الشمس فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وكنيته أبو هريرة كان قومه يلقبه بها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقبه بأبي هر. Donc Abu Hurayra رضي الله عنه, avant l'islam il était appelé عبد الشمس. Et lorsqu'il a embrassé l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Abdurrahman. Et sa kunya et Abu Huraira, radiyallahu anhu, et son peuple l'a ainsi surnommé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le surnommé Abu Hir. وَدَخَلَ الْإِسْلَامِ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ بَيْنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَخَيْبَرٍ وَكَانَ عُمْرُهُ حِنَ ذَاكْ نَحْوًا مِنْ 30 سَنَةٍ فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلازمه ملازمة تامة رغبة في العلم رضي الله عنه. Et Abu Hurayra رضي الله عنه a embrassé l'islam la septième année de l'Hégire, entre l'événement de l'Hudaybiyya et l'expédition de Khaybar. Et à ce moment-là, il avait une trentaine d'années, رضي الله عنه, et il a émigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a tenu compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière assidue pour ainsi rechercher la science. Wa kana Abu Hurayra radiyallahu anhu min ashab as-suffah. Abu Hurayra radiyallahu anhu faisait partie des gens qu'on appelait ahl as-suffah, qui étaient des pauvres qui vivaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient peu de moyens et qui n'avaient pas de maison. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. والحديث في صحيح البخاري. أبو هريرة رضي الله عنه دي: Je jure par Allah, je m'appuyais ventre à terre à cause de la faim, et je m'attachais une pierre contre mon ventre pour lutter contre la faim. Et le hadith est rapporté dans Sahih al-Bukhari. وأبو هريرة له مناقب كثيرة. Et Abu Huraira رضي الله عنه a énormément de mérites et de vertus, parmi lesquels ceux que nous allons citer. أولا ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Premièrement, Abu Huraira رضي الله عنه tenait assidûment la compagnie du prophète صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله والله الموعد، ويقولون ما للأنصار والمهاجرين لا يحدثون مثل أحاديث أبي هريرة، ويقول أبو هريرة: وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرئا مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر إذا غاب وأحفظ إذا نسوا. والحديث في صحيح البخاري. Donc dans l'authentique de Bukhari, il a été rapporté que Abu Huraira رضي الله عنه a dit: les gens disent qu'Abu Huraira رضي الله عنه connaît beaucoup de hadiths et Allah nous jugera tous pour nos paroles. Abu Huraira continue en disant: ils disent que les Ansar et les Muhajirin ne rapportent pas autant de hadiths que Abu Huraira. Alors Abu Huraira explique en disant: mes frères les Muhajirin étaient occupés par le commerce. Frères les Ansar étaient occupés par la richesse et à cultiver les terres. Quant à moi, j'étais une personne très pauvre et je restais auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en subissant la faim. Et j'étais présent quand ils étaient absents et je retenais lorsqu'ils oubliaient. Donc ce hadith montre bien que Abu Huraira était assidu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. حرصه على معرفة الخير وفعله. Le souci d'Abu Huraira radiyallahu anhu à connaître le bien et le mettre en pratique. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقوم الليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. والحديث في أخرجه ابن حبان. Donc Abu Huraira رضي الله عنه nous dit: j'ai demandé au prophète d'Allah, au prophète d'Allah, lorsque je te regarde, mon âme s'apaise, mes yeux se remplissent de joie. Informe-moi d'une action. Si je la pratique, je rentrerai au paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: répands le salam, nourris les gens, maintiens le lien de parenté, prie la nuit alors que les gens dorment, et tu rentreras au paradis en toute sécurité. Et le hadith est rapporté par Ibn Hibban. Thalithan, hirsuhu radiyallahu anhu ala al-hadith wa talab al-ilm. Troisièmement, ce qui montre les mérites de Abu Huraira, c'est son souci et sa motivation à connaître le hadith et à rechercher la science. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. والحديث في صحيح مسلم. Dans l'authentique de Muslim, il a été rapporté qu'Abu Huraira رضي الله عنه a questionné le prophète en lui demandant: au prophète d'Allah, qui sera le plus heureux à profiter de ton intercession le jour de la résurrection? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'étais sûr, ô Abu Huraira, que personne ne me questionnerait sur cette question avant toi, vu ton désir ardent par rapport au hadith prophétique. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: la personne qui sera la plus heureuse à profiter de mon intercession, c'est celui qui dit La ilaha illallah avec sincérité du cœur ou dans son âme. Et le hadith est rapporté par le Bukhari. Min manaqibihi hirsuhu ala al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'ani al-munkar. Parmi les mérites de Abu Huraira, c'est son souci d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. قيل أن أبا هريرة رضي الله عنه مر بقوم وهم يتوضؤون فقال لهم أبو هريرة أسبغوا الوضوء أي أكملوا الوضوء كأنه رأى فيهم تقصيرا في الوضوء فقال لهم آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار والحديث في صحيح مسلم. Il a été rapporté dans l'authentique de Muslim que Abu Huraira radiallahu anhu est passé à côté de personnes qui accomplissaient l'eau. Et Abu Huraira radiallahu anhu a constaté chez eux un manquement dans la façon de faire l'eau. Alors il leur a dit, complétez l'eau parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire le feu ou le malheur aux talons qui sont non lavés pendant l'eau. واستقبل أبو هريرة رضي الله عنه امرأة متطيبة فقال أين تريدين يا أمة الجبار فقالت المرأة المسجد فقال وله تطيبت قالت نعم فقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله لها صلاة حتى ترجع فتغتسل منه غسلها من الجناب وهذا في مسند الإمام أحمد. Aussi parmi les hadiths qui montrent qu'Abu Huraira était soucieux d'interdire le blâmable et d'ordonner le convenable, c'est qu'Abu Huraira a rencontré une femme qui était parfumée. Alors Abu Huraira lui a dit « Où te diriges-tu » Cette femme lui a dit « Vers la mosquée ». Et Abu Huraira lui a dit « Et c'est pour cette raison que tu t'es parfumée ?» Elle a dit « Oui ». Alors Abu Huraira lui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, toute femme qui sort de chez elle parfumée pour aller à la mosquée, Allah n'acceptera pas sa prière tant qu'elle ne retourne pas chez elle et qu'elle accomplit une douche comme on accomplirait une douche pour la janab. Et le hadith se trouve dans le musnad de l'imam Ahmad. Fa Abu Huraira radiyallahu anhu akthar as-sahabati riwayatan wa lahu fi kutub al-hadith 5370 حديث منها 686 في الصحيحين. Et Abu Huraira radiyallahu anhu est parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui nous a rapporté le plus de hadith. Et on retrouve dans les livres de hadith 5374 hadith rapportés par Abu Huraira, dont 608 se retrouvent dans le recueil de Bukhari de Muslim. وتوفي سنة 58 أو 59 في المدينة ودفن في البقيع. Et Abu Huraira رضي الله عنه est mort l'année 58 ou l'année 59 à Médine et il a été enterré dans le cimetière du Baqi. رضي الله عنه هذا فيما يتعلق بترجمة راوي الحديث. Voilà pour ce qui concernait la biographie ou des points de la vie du rapporteur du hadith qui est Abu Huraira عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه. الأمر الثاني منزلة الحديث. Le deuxième point que nous allons voir, c'est l'importance du hadith. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. Ce hadith est une référence, un fondement essentiel dans le domaine des règles de politesse. وقد حكى الإمام ابن صلاح رحمه الله عن أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في زمانه أنه قال جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث اليوم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الحديث الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل لا تغضب. والحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc ce hadith est une référence dans les règles de politesse et il a été rapporté d'après Ibn Sallah, un très célèbre savant du hadith. Il rapporte la parole de Abi Muhammad ibn Abi Zayd al-Qayrawani, le savant par référence des Malikites à son époque. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dit la parole suivante. L'ensemble des règles de politesse relatives au bien découle de quatre hadiths. Le premier hadith, c'est le hadith que nous étudions aujourd'hui. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il marque de la bonté envers son voisin. Et que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il reçoive généreusement son hôte. Le deuxième hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait partie du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne la préoccupe pas. Le troisième hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme, ne te mets pas en colère. Et le quatrième hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'entre vous n'est pas véritablement un croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Voilà les quatre hadiths de référence et de ces hadiths découlent les règles de politesse en islam. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه اشتمل هذا الحديث على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق القولية والفعلية. ابن حجر العسقلاني nous rapporte dans l'explication de Sahih al-Bukhari la parole suivante. Il dit ce hadith comprend trois points et ces trois points rassemblent et réunissent les nobles caractères, qu'il s'agisse des nobles caractères dans les paroles ou des nobles caractères dans les actes. Voilà pour ce qui est de l'importance de ce hadith. Al-amru thalith ma yustafadu min hada al-hadith. Le troisième point que nous allons voir, ce sont les leçons, les enseignements à retenir de ce hadith. Et incha'Allah ta'ala, nous allons en citer 14. Al-fa'idatu l'oula min hada al-hadith. أن الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الحث والإغراء لنتحلى بمكارم الأخلاق ولنلتزم بها وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وليفعل كذا وليفعل كذا كأنه صلى الله عليه وسلم قال إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير أو اصمت وكأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فاكرم جارك وكأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فأكرم ضيفك. La première leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que l'islam nous appelle au noble caractère. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé des formules et des tournures d'encouragement et d'incitation pour nous pousser à acquérir ces nobles caractères et embellir nos comportements par ces derniers. Et ceci se trouve dans la parole du prophète lorsqu'il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier se montre généreux envers son voisin. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier reçoive généreusement son hôte. Et ici, cette formule utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette tournure, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Si tu crois en Allah et au jour dernier, alors dis le bien ou tais-toi. Si tu crois en Allah et au jour dernier, alors sois généreux envers ton voisin. Si tu crois en Allah et au jour dernier, alors reçois généreusement ton invité. » الفائدة الثانية أن من مكارم الأخلاق ثلاثة أمور. أولا قول الخير أو الصمت عما سواه. ثانيا إكرام الجار. ثالثا إكرام الضيف. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Deuxième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que trois choses, trois actes font partie des nobles caractères. Le premier, c'est de dire le bien ou de se taire. Le deuxième, c'est de montrer et de marquer de la bonté envers son voisin. Le troisième, c'est de marquer de la générosité envers son invité. Et ceci se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il reçoive généreusement son invité, et que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il se comporte généreusement avec son voisin. الفائدة الثالثة أن مكارم الأخلاق منها ما يتعلق بحقوق الله جل وعلا كأداء الواجبات وترك المنكرات ومنها قول الخير والصمت عن غيره ومن مكارم الأخلاق ما يتعلق بحقوق العباد كإكرام الضيف وإكرام الجار وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Troisième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que certains des nobles caractères et des bons comportements concernent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait d'accomplir les obligations et de délaisser les interdits. Et ici, dans le hadith, parmi les droits d'Allah Azzawajal, c'est le fait de dire le bien ou de se taire. Et d'autres nobles comportements et nobles caractères concernent le droit des hommes, comme le fait de marquer de la bonté envers le voisin et de la générosité envers son hôte. Et ceci, on le retrouve dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il marque de la bonté envers son voisin. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il reçoive généreusement son hôte. Al-fa'idatu al-rabi'a. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmi l'akhir, falyaf'al kada wa kada, walyaf'al kada wa kada, walyaf'al kada wa kada, yadullu ala anna hadhihi al-khisal al-thalath, من خصال الإيمان وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا ما عليه أهل السنة والجماعة نسأل الله أن يجعلنا منهم وليس المراد بالحديث أن من لم يتصف بهذه الصفات فَإِنَّ الْإِيمَانَ يَنْتَفِ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ لَا بَلْ يَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّ إِيمَانَهُ نَاقِسِ. Quatrième leçon que l'on peut retenir de ce hadith concerne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taise, qu'il honore son invité et qu'il se comporte bien avec son voisin. » Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que ces trois actes cités dans le hadith, dire le bien ou se taire, la bonté envers le voisin et la générosité envers son hôte, ces trois actes font partie des caractéristiques de la foi. Et ceci montre bien que les actes font partie de la foi. Et ceci est la voie des gens de la sunna et de la jama'a. Pour les gens de la sunna et de la jama'a, ils considèrent, à l'appui des versets du Coran et des hadiths prophétiques, que la foi est une croyance, c'est des actes et des paroles. Elle augmente avec les obéissances et elle diminue cette foi avec les péchés. Ceci est la voie des gens de la sunna et de la jama'a et ils se distinguent des gens de l'innovation qui ont d'autres définitions de la foi qu'Allah nous en préserve. Mais ce hadith ne signifie en aucun cas que celui qui ne possède pas ces trois qualités, que cette personne-là n'est plus croyant. Mais cela signifie seulement que sa foi est diminuée, que sa foi n'est pas complète. Et cette compréhension-là des textes, c'est la compréhension des gens de la sunna et de la jama'a, qui est loin de la compréhension des khawarij et des mu'tazila et des murji'a. Al-fa'idatu al-khamisa, anna al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, jama'a fi hada al-hadith, bayna al-imani billah, wal-imani bil-yawm al-akhir, fi hadihi al-umuri al-thalatha. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر جمع بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ ما هي الحكمة؟ لأن الإيمان بالله عز وجل هو الأساس ولا دين بغير هذا الأساس الصحيح. ولأن الإيمان باليوم الآخر فيه التذكير بالمعاد والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر والعياذ بالله. ولأن من آمن باليوم الآخر فإنه يستعد لهذا اليوم، فيقوم بالواجبات ويكثر الحسنات، ويجتنب المحرمات ويتوب عن السيئات، ويتحلى بمكارم الأخلاق. وهذا وجه ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله جل وعلا، وهذا نجده في كثير من النصوص في القرآن والسنة. الإيمان بالله مقرون بالإيمان باليوم الآخر. Cinquième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le fait de dire du bien ou de se taire, le fait d'être généreux avec son voisin et de recevoir généreusement son hôte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a associé dans ces trois actions la foi en Allah avec la foi au jour dernier. Pourquoi ? Quelle est la sagesse ? Et on retrouve dans beaucoup de versets du Coran et dans beaucoup de hadiths la foi en Allah rattachée avec la foi au jour dernier, sans citer les autres piliers de la foi. Pour quelle raison ? Les hommes de science nous disent parce que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala est la base, c'est le fondement de base, sans lequel il n'y a point de religion et il n'y a point d'édifice. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam le cite dans ce hadith. Et aussi deuxièmement, parce que la croyance au jour dernier nous rappelle la résurrection, le jugement, la rétribution des actes, en bien pour celui qui a fait le bien et en mal pour celui qui a fait le mal. Et parce que celui qui croit au jour dernier, il va se préparer pour ce jour. Et ainsi, il observera les obligations et multipliera les bonnes actions. Il délaissera les interdits, s'en éloignera et constamment il se repentira à Allah subhanahu wa ta'ala de ses péchés. Et il s'acharnera à s'orner des nobles caractères, comme le fait de dire le bien ou de se taire, comme le fait d'honorer son invité et comme le fait de bien se comporter avec son voisin. C'est quoi qui nous pousse à faire cela ? C'est le fait de croire à Allah Azza wa Jal et au jour dernier, le jour où on se lèvera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici et dans d'autres hadiths, a cité avec la foi en Allah, la foi au jour dernier. الفائدة السادسة الترغيب والحث والأمر في الكلام فيما هو خير والصمت عما سواه، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي هذا إرشاد للعبد أن يسلك أحد الأمرين في الكلام، فإن كان الكلام خيرا فليتكلم به وإن لم يكن خيرا أمسك عنه وهذا سبيل النجاة. La sixième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'il y a un encouragement, une incitation, voire même l'ordre de parler seulement dans le bien ou de se taire pour toute autre chose. Et ceci on le tire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et ce hadith nous enseigne à observer une ligne de conduite avant de parler. Avant de parler, si la parole prononcée est bien et bénéfique, alors on parle et on la dit. Par contre, si la parole prononcée est mauvaise et nuisible, alors qu'on s'abstienne de parler et qu'on se taise. Voilà ce que nous enseigne ce hadith. Al-fa'idatu sabi'a, anna al-kalam as-sadir 'an al-insan yanqasimu ila thalathati aqsam. الأول أن يكون خيرا فإنه يقوله، أي الكلام بالخير أفضل من السكوت عنه، وهذا بعد التفكر والتأمل. ثانيا أن يكون الكلام شرا فإنه لا يقوله أبدا، أي السكوت عنه واجب. ثالثا أن يكون الكلام مباحا لا خير فيه ولا شر، فإنه يصمت أي يسكت، أي السكوت عن هذا الكلام الذي لا خير فيه ولا الشر أفضل من الكلام به، لأن الكلام المباح قد يجر إلى الكلام المحرم. فنبدأ أولا بالكلام المباح ثم نكثر في الكلام المباح وفي الأخير نقع في الكلام المحرم.
Septième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que les mots, les paroles prononcées, dites, sont de trois catégories. Premièrement, il peut s'agir d'une parole de bien. Alors, ce hadith nous enseigne qu'on doit dire cette parole de bien. C'est-à-dire, dire le bien est préférable au fait de se taire. Bien sûr, après avoir réfléchi à ce que l'on va dire. Deuxième sorte de parole, il peut s'agir d'une parole de mal. Alors, dans ce cas, qu'on se taise et qu'on retienne notre langue. C'est-à-dire, se taire ici est obligatoire. Troisième sorte de parole, c'est une parole qui est permise. Dans cette parole, il n'y a ni un bien et il n'y a ni un mal. Alors ici, il est préférable de se taire. C'est-à-dire, se taire est préférable et est mieux que de dire des paroles permises. Parce que la personne commence par dire des paroles permises, ensuite, elle fait un excès de paroles, et finalement, elle risque de tomber à des paroles interdites. Et ceci est l'enseignement que l'on tire de ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. الفائدة الثامنة من هذا الحديث الحث على حفظ اللسان لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقد كثرت النصوص في الأمر بحفظ اللسان ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقال معاذ بلى يا رسول الله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه فقال كف عليك هذا فقال معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.
La huitième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'il y a dans ce hadith une incitation à surveiller sa langue et à retenir ses propos. Et cela, on le retire de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et il y a beaucoup de textes du Coran et de la Sunna qui nous ordonnent à surveiller notre langue et à retenir nos propos. Parmi ces textes, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'ad, lorsqu'il dit, après que Mu'ad l'ait questionné sur les actes qui font entrer au paradis et qui nous évitent d'entrer en enfer, qui nous préservent de l'enfer, et encore d'autres questions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Veux-tu que je t'informe de ce qui va préserver tout cela, ce qui va préserver tout ton islam, toutes tes œuvres ?» Alors Mu'ad a dit, « Bien sûr au prophète d'Allah !» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi sa langue et il a dit « Préserve-toi de ceci ». Alors Mu'ad a dit « Ô prophète d'Allah, serons-nous punis pour nos paroles ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Puisse ta mère te perdre, ô Mu'ad ! Y a-t-il autre chose qui précipite les gens la face dans le feu ou le nez dans le feu, si ce n'est la récolte de ce qu'ils ont proféré comme parole ?» Et le hadith est rapporté par At-Tirmidhi, c'est un hadith authentique. الفائدة التاسعة من هذا الحديث التحذير من آفات اللسان وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وآفات اللسان كثيرة منها الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والشرك إلى آخره. Neuvième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'il y a dans ce hadith une menace très sévère et une mise en garde des dégâts des mots, des dégâts causés par les mots. Et ceci, on le tire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et les dégâts des mots sont nombreux. Il y a le mensonge, la calomnie, la médisance, les paroles de shirk, les paroles de kufr, la moquerie des gens, les insultes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. الفائدة العاشرة التزام الصمت مطلقا واعتقاد أنه قربة وطاعة في جميع الأحوال بدعة ليس له أصل في الشرع وهو من عمل أهل الجاهلية. Dixième leçon que l'on peut tirer de ce hadith,
c'est que le fait d'observer constamment le silence de manière absolue, en croyant que cela est une adoration, est un acte avec lequel on s'approche d'Allah Azzawajal, ceci est une bid'a, ceci est une innovation qui n'a aucune preuve et aucune origine dans la religion d'Allah Azzawajal, et il fait même partie des pratiques des gens de la jahiliya. Al-fa'idatul al-hadiyata ashar. Al-hath wal-amru bi-ikram al-jar. Wa hadha fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal-yawmi l'akhir, fal-yukrim jarahu. Wa ikram al-jar jaa fi al-shar'a mutlaqan bila tahdid. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم كيف نكرم الجار في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث والقاعدة الفقهية تقول وهي مستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله أن كل أمر أتى في الشريعة مطلقا ولم يحدد يرجع فيه إلى العرف أي إكرام الجار يرجع فيه إلى العرف وما يعده الناس إكراما فهو إكرام الجار. La onzième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que dans ce hadith, il y a une incitation forte, voire même un ordre, à marquer de la bonté envers le voisin. Et ceci, on le retire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il se comporte avec bonté et qu'il se comporte généreusement avec son voisin. Et ici, il y a une remarque à faire. Ici, il n'est pas indiqué comment marquer de la bonté et de la générosité avec son voisin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a pas dit « marquer de la générosité avec votre voisin en faisant ceci ou ceci ou ceci ». Il y a une règle qui est tirée du Coran et de la Sunna, une règle dans Qawaid al-Fiqh qui dit que tout acte que la religion demande d'accomplir sans aucune précision, il doit être accompli selon les coutumes du pays. C'est-à-dire, on revient aux coutumes pour savoir comment marquer de la bonté envers son voisin. Et ce que les gens considèrent comme acte qui marque de la bonté envers son voisin, ceci rentre dans ce hadith. Al-fa'idatu thaniyata ashar, at-tahdhiru min ida'il jar, wa hadha fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmi l'akhir, fal-yukrim jarah. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وحذر من إيذاء الجار في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه الذي لا يأمن جاره شره. La douzième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'il y a une mise en garde très sévère sur le fait de porter atteinte à son voisin et de mal se comporter avec lui. Et ceci, on le retire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il se comporte convenablement, généreusement avec son voisin. Et dans beaucoup de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur ce point, c'est-à-dire l'interdiction de porter atteinte à son voisin, et il a menacé les gens. Regardez ce hadith, le prophète sallam dit « Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. » Ils ont dit « Qui est au prophète d'Allah ?» Le prophète sallam a dit « Celui qui ne met pas ses voisins à l'abri de ses méfaits. Celui-là n'est pas véritablement croyant. » Al-fa'idatu thalithata ashar. الجيران ثلاثة كما قال أهل العلم الجار الأول هو الجار الذي له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القريب فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة الجار الثاني هو الجار الذي له حقان وهو جار المسلم فله حق الجوار وحق الإسلام والجار الثالث هو الجار الذي له حق واحد وهو جار الكافر فهذا له حق الجوار الله الله به يا عباد الله ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Treizième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que les voisins sont de trois sortes, de trois catégories dans leur droit. Le premier voisin, c'est le voisin qui a trois droits. Qui est ce voisin? C'est celui qui est ton voisin, qui est musulman et qui fait partie de ta famille. Celui-là a trois droits. Il a le droit du voisinage, le droit de parenté et le droit de l'islam. Deuxième sorte de voisin, c'est le voisin qui a deux droits. C'est celui qui est ton voisin et qui est musulman. Il a le droit de l'islam sur toi et le droit du voisinage. Et le troisième voisin, c'est le voisin qui a un seul droit sur toi. Et c'est le voisin non musulman et il a le droit du voisinage. Et on doit faire attention à préserver le droit de nos voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Jibril ne cesse de me recommander le voisin au point que j'ai cru qu'il allait avoir une part de l'héritage. الفائدة الرابعة عشر الأمر والحث بإكرام الضيف والمراد بإكرام الضيف إحسان ضيافته وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. La quatorzième leçon et dernière que nous allons citer, que l'on peut tirer de ce hadith, il y a dans ce hadith une incitation forte et un ordre de recevoir généreusement son invité. Et recevoir généreusement son invité, c'est marquer de la générosité, de la bonté, de l'hospitalité envers son hôte. Et ceci, on le retire de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il reçoive généreusement son hôte. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي حُكْمِ الضِّيَافَةِ إِلَىٰ أَقْوَالِ الْقَوْلُ الْأَوَّلِ أنها واجبة مطلقة القول الثاني واجبة في حق أهل البوادي دون القرى الحق الثالث أنها مستحبة وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليه. Et les hommes de science ont divergé sur le statut de l'hospitalité en plusieurs avis. Certains ont dit que l'hospitalité est obligatoire dans tous les cas. D'autres ont dit l'hospitalité est obligatoire pour les gens de la campagne, mais pas ceux de la ville. Parce que dans la ville, il y a des restaurants, il y a des endroits où la personne peut se nourrir et des endroits aussi où la personne peut dormir. Et le troisième avis, c'est l'avis de la plupart des savants, c'est que l'hospitalité n'est pas une obligation, mais c'est une chose recommandée. وَقَدْ دَلَّتَ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الضِّيَافَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَمَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ التَّطَوُّعُ جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم وليلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم والضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة. Est-ce qu'on peut le retenir des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que l'hospitalité est obligatoire un jour et une nuit. Et qu'au-delà d'un jour et une nuit, c'est une faveur de la personne envers son invité. Parce qu'il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari et de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il traite avec égard son invité et qu'il lui fasse sa ja'iza. Alors les compagnons ont dit, et c'est quoi sa ja'iza au prophète d'Allah? Il a dit, c'est un jour et une nuit. C'est-à-dire être particulièrement généreux durant le premier jour et la première nuit. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et la durée de l'hospitalité est de 3 jours, et au-delà de 3 jours, cela est considéré comme une sadaqa de la personne. Voilà pour ce qui est de ce hadith. On relit le hadith une dernière fois. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه الحديث رواه البخاري ومسلم. Donc Abu Huraira رضي الله عنه nous rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il marque de la bonté et de la générosité envers son voisin. Et que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il reçoive généreusement son hôte. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et par Muslim.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.